Oui, Seigneur, ce matin, nous avons déjà beaucoup parlé de tes bienfaits. Eh bien, l'un des plus grands, c'est ta parole. Oui, l'un des plus grands de tes bienfaits, si ce n'est pas le plus grand, c'est de nous avoir donné ta parole. Alors on me dira, mais non, le plus grand bienfait, c'est Jésus-Christ. Mais précisément, Jésus-Christ, il est dit dans ta parole qu'il est parole de Dieu. Parole incarnée, c'est un mystère. Oui Seigneur, quel immense bienfait d'avoir donné au monde ton Fils. Et quel immense bienfait de pouvoir maintenant ouvrir ce merveilleux livre qui va nous apprendre quelque chose de beau, on espère quelque chose de neuf, quelque chose qui nous revitalise, quelque chose qui vient de toi de toute façon Seigneur, qui nous dit quelque chose de beau et de toi. Alors inspire-nous Seigneur, permets que nous soyons attentifs à ce qui sera dit pour que nous puissions profiter du cadeau que tu nous fais ce matin. Amen. Alors c'est dans Luc, donc l'évangile de Luc au chapitre 10, les versets 38 à 42. Alors il faut d'autant plus être attentif que ce texte, vous le connaissez par cœur. Alors un texte qu'on connaît, qu'on a entendu des centaines de fois, on l'écoute un peu d'une oreille distraite. Et c'est là le piège. Parce que si vous voulez découvrir quelque chose, ben, il faut bien écouter chaque virgule, j'allais dire, de ce texte. Qui est vraiment une perle. Marthe et Marie. Hein. Donc, Luc 10, 38. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Quand on lit, quand on écoute ce récit, on ne peut pas, alors concernant l'agitation de Marthe, n'est-ce pas, elle est affairée au ménage, la tenue de la maison, préparation du repas peut-être. Et lorsqu'on est face à ce récit, on pense tout de suite à notre propre agitation. Dieu sait si nous sommes tous les jours absorbés par toutes sortes de démarches, de choses à faire, on va faire les courses, on va à la banque, on va à la poste, il faut amener la voiture à réparer chez les mécaniciens, il faut amener les enfants à l'école, il faut que d'agitation, et des agitations quotidiennes qui sont, on va dire, liées aux nécessités de la vie de tous les jours, on n'y échappe pas, n'est-ce pas? Mais, voilà, on est à l'image de Marthe, et à Marthe, Jésus dit, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, et c'est Marie qui a trouvé cette chose, pas toi. Alors, en conséquence, on se dit, mais alors, nous aussi, on ferait peut-être bien de chercher cette chose, cette seule chose nécessaire, de quoi s'agit-il, de façon à ce que nous puissions hériter de la bonne part qui ne nous sera point ôtée, comme il est dit dans le texte. Alors une interprétation un petit peu facile, un peu hâtive hein, de ce texte pourrait nous laisser penser que Jésus nous invite à nous détacher, n'est-ce pas, nous détacher de toute considération matérielle, méprisable, pour nous consacrer exclusivement aux choses spirituelles. Ah, ça ferait une belle prédication, hein. Bon. Mais je crois que ce serait là une conclusion simpliste. Et même, je vais vous dire, un contresens par rapport à la Bible. Parce que, par exemple, il y a des préceptes bibliques qui nous parlent de cette agitation. dans Deutéronome, chapitre 5, verset 13. Voilà ce que Dieu ordonne. Je dis bien ordonne, on est dans l'avalanche des lois qu'il peut y avoir dans le Deutéronome. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. C'est l'ordre. Alors bien sûr, après, là, le 7e jour, tu te reposeras, c'est le Shabbat, n'est-ce pas ? Mais je m'arrête à ça. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Les tâches quotidiennes, fussent-elles ménagères, comme pour Marc, toutes ces tâches sont donc intégrées au commandement que Dieu a donné aux hommes. Bougez-vous, travaillez, faites ce qu'il faut, les choses ne viendront pas tout cuit dans le bec. Hein, voilà. Si vous voulez, pour Marthe, si elle veut une maison propre et rangée, il faut qu'elle passe le balai, si elle veut un bon repas, il faut qu'elle le prépare. Et je crois d'ailleurs que Marthe s'acquitte manifestement avec zèle de ce commandement de Dieu dans le Deutéronome, et on ne peut en aucun cas lui reprocher ce zèle qu'elle a dans sa maison. En même temps, on peut supposer aussi que ce jour-là, dans ce village, alors c'est Béthanie, hein, c'est pas dit dans le texte, mais il s'agit de Béthanie, c'est ce village où résidaient Lazare et ses deux sœurs, Marthe et Marie, hein, et qui étaient des amis, sont devenus des amis très proches de Jésus. Donc ce jour-là, dans ce village de Béthanie, si Jésus a eu un bon repas, et s'il a pu passer un agréable séjour dans une maison propre et bien rangée, et bien c'est pas grâce à Marie, ce n'est pas grâce à Marie, c'est grâce à sa sœur Marthe. Et quelque chose me dit que Jésus a dû apprécier, parce que c'est quand même agréable, d'avoir quelque chose de bon à manger, d'être dans une jolie maison. Bon. Et à ce sujet, je crois qu'il faut voir dans le zèle et l'ardeur déployés par Marthe, ce n'est pas seulement la marque de fierté d'une maîtresse de maison qui tient à sa réputation. Hein, ça va beaucoup plus loin, à mon avis. Cette ardeur déployée par Marthe, correspond au désir d'honorer un invité qu'elle admire et qu'elle aime plus que tout autre en la personne de Jésus. Pour Jésus, Marthe ne veut économiser aucun effort, rien n'est trop beau, pour lui réserver le meilleur accueil. On revient sur notre thème. Peut-on lui jeter la pierre ? Imaginez, que ferions-nous si... je ne sais pas quel prodige, si nous apprenions que Jésus va arriver chez nous, va rentrer chez nous dans nos maisons. Est-ce que nous ne ferions pas de même ? Oui, si Jésus était notre invité. Moi, je crois que oui, Jésus a été certainement sensible au dévouement de Marthe. Alors maintenant, parlons de Marie. De son côté, Marie, elle aussi, elle voue une passion sans limite pour Jésus. Il y a une chose symptomatique, il faut regarder bien dans l'évangile, quel que soit le livre de l'évangile des quatre, hein, à chaque fois qu'il est question de Marie, où est-ce qu'elle se trouve ? Au pied de Jésus. Je peux y dire, à chaque fois qu'elle voit Jésus, elle se jette à ses pieds. Je vous le prouve. On lit par exemple, juste avant que Jésus ressuscite son frère Lazare, la résurrection de Lazare, nous lisons donc dans l'évangile, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Alors qu'avant elle, c'est Marthe qui est venue au devant de Jésus, et il n'est pas dit que Marthe est tombée à ses pieds. Marthe se présenta devant Jésus et lui dit de point, vous voyez, guillemets, etc. Hein, vous voyez la différence, hein. C'est dans Jean 11, verset 32. Ou bien, un peu plus tard, lors d'un repas à Béthanie, où elle va répandre du parfum sur les pieds de Jésus, et elle les essuie avec ses cheveux. Si vous trouverez ce récit dans Jean, chapitre 12, verset 3. Donc, si elle répand du parfum sur les pieds de Jésus, c'est bien qu'elle est aux pieds de Jésus. Hein, on est d'accord. Ou encore, comme dans ce récit que nous venons de lire, dans Luc, où Marie écoute passionnément aux pieds de Jésus, verset 39. Alors, cette attitude, elle est souvent liée à la soumission, n'est-ce pas ? Aux pieds, se jeter aux pieds de quelqu'un, c'est se soumettre. Alors, il y a peut-être un peu de ça, mais je crois qu'ici, c'est beaucoup plus, dans ce texte hein, de Luc, chapitre 10, c'est beaucoup plus le signe d'une écoute attentive, c'est-à-dire le disciple par rapport au maître. On se met aux pieds du maître pour recevoir son enseignement. Vous voyez, c'est beaucoup plus dans ce sens que dans le sens de la soumission. Alors, en réalité, ces deux sœurs, Marthe et Marie, eh bien, moi, j'ai pas peur de dire que chacune, à sa façon, veulent tout faire pour recevoir Jésus au mieux de ce qu'elles peuvent. Marthe, eh bien, en l'accueillant de la meilleure manière dans sa maison, et Marie, par l'écoute, je trouve un qualificatif, l'écoute émerveillée de sa parole. Alors, c'est pas dit dans le texte, mais je l'imagine buvant les paroles de Jésus en extase. Bon, on sait que Jésus captivait les foules, hein, mais Marie certainement aussi. Chacune de ces deux sœurs veulent accueillir Jésus, recevoir Jésus. Alors, chacune à sa façon, et c'est bien sûr sur ce point-là que Jésus veut marquer une distinction, parce qu'il va quand même faire une distinction. Tout admirable que soit l'intention de Marthe, on peut se demander qu'en restera-t-il, que restera-t-il de son ouvrage dans l'éternité. Par contre, Marie, en recevant les paroles de Jésus, elle, elle se constitue un trésor dans son cœur, qu'elle gardera pour toujours, elle est jusque dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Je crois que c'est dans ce sens qu'il faut comprendre les propos de Jésus qui suivent. Il répond à Marthe, une seule chose est nécessaire. En gros, ça signifie, enfin pas en gros, ça signifie pour moi, de tout ce que tu fais, tout disparaîtra. Même si c'est admirable, tout disparaîtra. Mais la parole de Dieu qui peut rentrer en toi, ou en tout cas qui rentre en Marie, cette parole, elle, subsistera pour l'éternité. Vous voyez, la différence, elle est là. Oui, Jésus ne méprise pas du tout le travail de Marthe. Mais il essaye de lui expliquer que ce n'est pas du tout la même chose pour elle que pour sa sœur. Sa sœur va garder ce trésor jusque dans l'éternité. Alors, je vais ouvrir maintenant une petite parenthèse, parce qu'il y a un truc un peu croustillant. Hein. Vous avez vu comment elle s'y prend, Marthe, pour ronchonner après sa sœur. Elle ne lui parle pas, sa sœur. Elle parle à Jésus. Elle est indignée d'être seule à assumer le service, donc elle ne s'adresse pas à sa sœur, mais elle charge Jésus de la réprimander. Ça, c'est pas mal, ça. Dis-lui donc de m'aider. Et même avant ça, elle dit, ça ne te fait rien. Ça ne te dérange pas qu'elle reste là pendant que moi je bosse. C'est quand même fort de café. Hein. Alors je crois qu'il faut voir, quand Marthe dit à Jésus, dis-lui donc de m'aider, elle donne un ordre à Jésus. Hein. Dis-lui donc de m'aider. Il faut voir là l'illustration de la forme que prend trop souvent notre prière vis-à-vis de Dieu. Seigneur, fais ceci, Seigneur. Agis dans tel sens, fais donc cela. Oui, on est à l'impératif, là. Hein. Seigneur, quand je parle de ce sujet, je cite volontiers l'exemple. Seigneur, fais que mon patron pense à m'augmenter. Vous voyez un peu, bon, c'est un peu caricatural, mais ouais. Et pourquoi pas? Le Seigneur peut très bien s'occuper de notre augmentation, parce qu'il jugera que... pourquoi pas? Mais vous voyez, c'est la forme. Seigneur, fais que. Moi, j'aime pas bien ce fait que nous dictons à Dieu l'intervention que nous souhaitons lui voir faire dans nos problèmes, alors que nous devrions savoir que ses réponses, mieux, ses solutions à lui, non seulement lui appartiennent, mais également sont toujours les meilleures. Alors, pourquoi nous est-il si difficile de lui présenter nos requêtes, nos peines ? En lui laissant le choix de la réponse. Ça nous est difficile. Et ça paraît naturel. Nous souffrons de quelque chose. Bah, Seigneur, fais que ce problème disparaisse. J'ai mal aux dents. Seigneur, fais que j'ai plus mal aux dents. Ça paraît logique. Mais on ne laisse pas le choix au Seigneur de la réponse qu'il veut donner à notre prière. Oui, pourquoi cela nous est-il difficile? Ne devrions-nous pas toujours conclure nos prières par « Que ta volonté soit faite » Rappelez-vous Jésus, hein, au jardin de Gethsémané, Et il suggère quand même, il fait aussi une petite suggestion au père, en disant, si cette coupe amère peut s'éloigner de moi, toutefois, il s'empresse, toutefois, qu'il en soit fait comme selon ta volonté, non pas la mienne. Oui, il n'attend pas, toutefois. Ce serait pourtant le meilleur moyen, en laissant Dieu faire sa volonté comme il l'entend, le meilleur moyen pour que notre relation et notre communication avec Dieu soient en phase avec le plan qu'il a voulu pour nos vies. Que ta volonté soit faite. Et si on a dans l'idée que la volonté de Dieu, c'est la nôtre, on risque de taper à côté. Seigneur, fais ceci pour ma vie, permets que... Et oui, mais si Dieu a prévu mieux pour nous, et forcément ce qu'il a prévu lui pour nous, c'est forcément mieux. Je vous l'ai dit, sa solution, c'est toujours la meilleure. Eh bien, à ce moment-là, on rate quelque chose. Parce que notre prière, elle n'est pas en phase avec le plan qu'il a voulu pour nos vies. Bon, je referme la parenthèse. Revenons à l'enseignement spécifique du jour de ce passage de Luc. La question pour nous, il faut, je crois, le répéter, donc encore une fois, il ne s'agit pas d'être une Marthe ou d'être une Marie dans notre vie, c'est-à-dire être actif ou contemplatif, parce que là, on a parlé de ménage, de démarche, d'agitation dans la vie de tous les jours. On va venir un peu dans le cadre du service, dans l'Église, de ce que nous faisons pour le Seigneur. Vous voyez, on parle souvent de servir le Seigneur. Eh bien, vous allez voir qu'on peut être aussi agité, même au service du Seigneur, agité de façon stérile. Et là aussi, Jésus nous dit, une seule chose est nécessaire. Alors, on va creuser un petit peu ça. Donc, la question n'est pas d'être actif ou contemplatif, alors parce que dans nos communautés, il est clair que, dans nos églises, nos communautés ecclésiales, la participation active de chacun aux diverses tâches, et elles sont nombreuses, elle est requise. Que ce soit des tâches matérielles ou même spirituelles. Parce que chacun fait selon ses capacités. Certains vont s'occuper de l'entretien des bâtiments, de choses qu'on peut qualifier de matériel, et puis d'autres seront plus portés sur ce qu'on appelle le côté spirituel, préparer les cultes, des études bibliques, des choses, enfin, des réunions de prière. Oui, mais moi je mets tout dans le même sac par rapport au sujet qui nous intéresse. On peut être agité, actif et rater cette chose, cette bonne part qui ne nous sera point ôtée, dont parle Jésus. Alors je m'explique. Que ce soit tâche matérielle ou même spirituelle, mais chacun doit être attentif à la priorité qu'il accorde à l'écoute de la parole de Dieu par rapport à son engagement dans le service. Je crois que c'est ça que Jésus nous dit. C'est bien, vous travaillez dans l'église, vous activez pour l'évangélisation, formidable. Mais quelle est votre priorité? Quelle est ta priorité? Il y a, je crois, une tentation qui est bien naturelle, pour que je dis bien naturelle, mais quand on parle de tentation, il y a toujours l'ennemi qui traîne dans le coin là, qui pousse un petit peu. Ouais, on va dire le diable, le Satan, vous l'appelez comme vous voulez. Oui, une tentation bien naturelle qui nous pousse à l'activisme. Et certainement parce que nous en tirons un sentiment de valorisation. Alors, on va dire de valorisation, de mérite aux yeux du Seigneur, enfin surtout aux yeux des frères et des sœurs. On est d'accord. Ah oui, quand on est reconnu, c'est normal d'être reconnu quand on a beaucoup travaillé pour l'Église, les frères et les sœurs sont encourageants, ils disent chapeau, bravo, tu as fait un bon travail. Ah, ça fait plaisir. Mais attention, attention, là on est aussi dans la tentation à ce moment-là, la tentation de l'activisme, faire pour le Seigneur, faire, faire, faire. Une seule chose est nécessaire, nous dit Jésus, et finalement cette chose consiste à recevoir de Dieu beaucoup plus qu'à lui donner, ou à faire quoi que ce soit pour lui. C'est ça en fait la conclusion. La chose nécessaire dont parle Jésus, c'est d'être capable de recevoir de lui, et c'est infiniment plus nécessaire que de lui donner ou de faire pour lui. nos activités, soyons bien clairs, hein, nos activités, notre zèle, voire pourquoi pas notre agitation pour le service de Dieu, lui sont sûrement agréables. Il y a quand même des commandements de servir le Seigneur, hein, bon. Mais combien plus agréable doit-il être pour lui d'avoir des créatures capables de s'arrêter, de se poser pour écouter sa parole. Je crois que si Dieu prend plaisir à nos vies, la façon dont nous menons nos vies, c'est surtout, surtout quand on se pose pour l'écouter. Et je crois que le cœur de Jésus a dû être joyeux d'avoir à ses pieds Marie qui écoutait, qui buvait ses paroles. Même si par ailleurs il était content que Marthe lui ait fait bon accueil. Vous voyez, hein, j'arrête là-dessus, ça devient un peu lourd. Alors, quelque chose d'intéressant aussi, et on reste là également dans l'esprit de l'Évangile, qu'est-ce qu'il y a à l'opposé de l'agitation ? Je le dis une dernière fois, agitation matérielle, spirituelle, on peut être agité aussi dans le domaine spirituel. À l'opposé de l'agitation, c'est quoi ? C'est le repos. Et il se trouve précisément que la Bible nous parle beaucoup de repos, notamment l'Évangile. Hein, la Bible nous invite au repos. Ah, il ne faut pas me le dire deux fois. Moi. Je ne suis pas allergique au travail, mais j'ai bien qu'on parle de repos. Maintenant que je suis à la retraite, j'y ai droit. Dans Matthieu, l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Bon, si on est fatigué, chargé, est-ce qu'on n'est pas capable de s'arrêter tout seul ? Est-ce qu'on a besoin de Jésus pour le repos ? Il n'y a qu'à s'arrêter, de s'agiter. Ouais, bon, ça c'est un raisonnement un peu simpliste, mais je le fais exprès, vous voyez ? Qu'est-ce que Jésus veut vraiment nous donner ? Il dit « Je vous donnerai du repos ». De quel repos s'agit-il ? Ce repos que Jésus veut nous offrir, c'est bien plus qu'un simple arrêt de notre agitation, y compris notre agitation à son service. J'insiste. Ce repos, ce sont ces temps d'écoute et de méditation de sa parole. Voilà le repos que nous offre Jésus. Et c'est vraiment le vrai repos. Et voilà donc cette seule chose nécessaire dont nous parle Jésus aujourd'hui. Je crois que ce que n'a pas compris Marthe par rapport à Marie, c'est qu'il y a des temps dans la vie où il faut s'activer. Tu feras tout ton ouvrage, je vous renvoie au Deutéronome, tu feras tout ton ouvrage, voilà. Et puis des temps où il faut, stop, il faut se mettre à l'écoute de Dieu. Et Marthe n'a pas détecté ce moment où Jésus commençait à parler et là elle aurait dû tout laisser tomber. Ses casseroles, son aspirateur, c'est un gag. Bon. Tout. Arrêtez, ça ne serait pas dispersé dans la nature. Elle aurait tout laissé, elle aurait coupé le gaz, brûlé sa soupe, et elle aurait dû venir elle aussi au pied de Jésus écouter. Peut-être que Jésus n'a pas parlé très longtemps, 10 minutes, un quart d'heure, il a dispensé un enseignement, mais Marthe, dans son agitation, elle l'a raté. Et je crois que nous sommes aussi devant cette chose-là. Il y a des temps où il faut bosser, où il faut transpirer, mouiller la chemise, mouiller le maillot, on dit maintenant là. Oui, et très souvent, et beaucoup, pourquoi pas. Et le Seigneur apprécie notre zèle, il apprécie nos efforts. Et puis des temps où, stop. C'est le temps de l'écoute, le temps. Alors il y a ce rendez-vous du dimanche matin, il en est un, hein, un temps où on se pose. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, c'est Samuel qui dans sa prière, tout petit enfant, a dit ça. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Sachons, les frères et sœurs, sachons saisir ces moments privilégiés lorsqu'ils se présentent, pour ensuite nous relancer avec de nouvelles forces, une nouvelle énergie suite à l'enseignement que Dieu nous donne, nous relancer dans l'ouvrage de chaque jour. Oui, que le Seigneur soit béni pour ce repos qu'il nous accorde. Amen.